Interview.
2Voix et c'est l'heure de l'interview avec au studio du Monde, à commencer par Paria, bonjour.
Salut.
Marsu.
Bonjour, bonjour.
François Poulain.
Bonjour Yves.
Bonjour. Et Christine.
Bonjour.
Bonjour à vous quatre, vous êtes ici pour nous parler, entre autres, d'un ouvrage qui est accessible en librairie et aussi certainement aux
très
archives de la monde, du monde...
De la zone mondiale.
De la zone mondiale,
il sort début avril en librairie. C'est une avant-première que tu as.
Indocile, donc, et qui s'intitule, et c'est un recueil de photographies opérées par François Poulain sur une période de 1987 à 2007, des photographies de la scène rock en France principalement.
Des photographies notamment noires et blancs, argentiques, qui ont été faites complètement en France.
Mais pas qu'avec des groupes français.
Il y a à peu près 90% de groupes français et 10% de groupes étrangers.
On va faire un peu le tour de la table avec vous, Paria, qui êtes donc responsable des archives de la zone mondiale.
Voilà, je m'occupe du label qui est situé à Die, au niveau de la Griotte. On a un atelier de sérigraphie et on fait de l'édition musicale. Donc on beaucoup de disques vinyles notamment, un peu de CD comme tu as entre les mains aujourd'hui. Et essentiellement focalisé sur la scène alternative des années 80, 90 un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a rencontré François Poulain dans nos pérégrinations, puisque lui aussi, c'est un peu son dada.
Il y a donc François Poulain. On peut parler un peu aussi de cette envie qui vous a pris de photographier ces musiciens sur scène.
Tout à fait. Ben, moi, j'étais musicien au départ. Je jouais dans un groupe et j'ai rencontré une petite association en 1987 qui s'appelait Capsule Rock à Champs-sur-Marne, en région parisienne. Et je suis rentré comme bénévole. Et c'était à l'époque où je suis aussi rentré à l'école de photo des Gobelins. Et donc, je me suis mis à photographier en 1987 des groupes de rock. Et ça ne m'a pas quitté. J'ai fait ça toute ma vie.
Même encore aujourd'hui.
Même encore aujourd'hui. Ouais.
Ensuite, Marsu.
Bonjour, heureux.
Bonjour. Et donc, Marsu, vous êtes donc en quelque sorte producteur.
Un peu multicasquette. Comme Paria, je suis à l'origine éditeur phonographique, non pas musical.
Oui.
C'est-à-dire que je sors des disques. J'ai eu deux labels, un qui dans les années 80 qui s'appelait Bondage Production ou Bondage Records, ça dépend de l'époque. Et puis ensuite, un autre qui s'appelle Crash Disc, qui existe toujours, même s'il est totalement en sommeil en ce moment. Et ça fait que moi, j'ai dû produire ou travailler en tant qu'éditeur phonographique et attaché de presse aussi, parce que ça, j'ai fait beaucoup, avec environ 200 groupes depuis le début des années 80. Et parallèlement, j'étais aussi manager de groupe. Alors, ça a été Lucratmic, groupe obscur mais légendaire, de free punk parisien. C'était Beurrier Noir, donc qui est un peu plus connu quand même. MKB Fraction Provisoire, qui est un groupe post-punk à l'origine de Toulouse, après ça, installé à Paris. Et puis Dirty District, un groupe de fusion qui est plus années 90. Plus récemment, j'étais aussi très brièvement été tour manager des Cadavres. Aussi. Donc, autre groupe punk d'époque. Voilà. Donc, je suis un peu multicasquette et maintenant, j'ai plutôt tendance à écrire. Donc, je me suis retrouvé à la préface de ce bouquin que je fais par charité pour mon ami.
Christine est à vos côtés aussi. Donc, vous êtes participante sur la préparation de cet ouvrage, Indocile.
Voilà, je suis graphiste et donc, je me suis occupée de la réalisation du livre, côté un peu technique. Et voilà. Et comme je suis la seule femme à ce micro, je me permets, aujourd'hui on est le 8 mars, de faire un petit clin d'œil aux frangins et aux frangines surtout.
Est-ce que justement il y a de la parité dans le rock ?
Oh, non, pas des masses, pas des masses.
Après,
ça s'est amélioré quand même depuis les années 80, c'est sûr. Mais les années 80 ont permis justement aux femmes d'intégrer un peu la musique, mais de façon vraiment parcimonie. Et non, aujourd'hui, c'est un petit peu mieux, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Hein. Ouais, si tu continues à regarder les affiches des gros festivals actuels, il n'y a pas de parité du tout.
Même, ouais. Donc, bah, ça dépend. Sans parler de salaire et de rémunération, voilà, des concerts derrière aussi.
Hein. Je dirais une chose, c'est qu'au niveau des artistes, la représentativité des artistes, il y a beaucoup plus d'artistes féminines, en particulier des chanteuses qui font quand même carrière. Et puis bon, t'as des références comme, je sais pas moi, Lady Gaga, par exemple, là, au niveau mondial, tu vois. Mais en revanche, au niveau du business, il y en a qui tiennent des labels, qui sont dans les trucs de distribution, etc., très très peu. Souvent, les femmes dans l'industrie musicale, elles sont à la promo.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Ou au graphisme.
Ouais, exactement.
Et moi, je rajoute une couche au niveau photographique. Moi, j'ai commencé à faire des expositions à partir de 1994. Et j'avais donc commencé à faire des photos en 1987. Et il m'a fallu attendre 20 ans pour réaliser une expo 100% féminine. Donc, j'avais réalisé 4 expos avant et 20 ans pour trouver assez de matière pour réaliser une expo entière 100% féminine.
On a débuté l'émission avec Vivre libre ou mourir des Berruriers noirs. C'est un hymne en quelque sorte aussi, oui, pour vous, qui vous a emmené sur ces 30 ans, François.
Oui, tout à fait. C'est un hymne, c'est vraiment le groupe phare, celui qui est, je pense, le plus connu en France. Et donc, c'est un groupe que j'ai très peu photographié, puisque je ne l'ai photographié qu'une fois. C'était au Zénith de Paris en 1988. Et donc, un groupe qui est toujours présent dans nos cœurs et qui est toujours, j'allais dire, un best-seller au niveau des ventes chez Archives de la Zone Mondiale. On va dire que c'est eux qui tirent l'écurie.
C'est vrai.
Et ce serait peut-être à réécouter en ces temps actuels. Beaucoup de mots sont importants aujourd'hui, je pense, par rapport à tout ce qui se passe.
On va parler aussi donc des archives de la Zone Mondiale, qui est l'éditeur de cet ouvrage, donc Indocile. Comment s'élabore cette production entre vous ?
François, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par livre interposé il y avait pas mal d'années, vu qu'il avait sorti un premier ouvrage qui s'appelait « Scènes de rock en France ». C'était en quelle année ?
1993.
Voilà. Moi-même, je faisais de la radio et du coup, c'était vite devenu ma bible de référence pour me documenter sur pas mal de groupes.
Oui, parce qu'il faut signaler que ce livre, en fait, n'était pas qu'un bouquin de photos. Il a lié des photos et des présentations.
Des biographies, des discographies.
Et pour plein de groupes qui étaient relativement inconnus, c'était une manière de se présenter, assez importante.
Et le constat était de se dire aussi que dans ce livre-là, Scènes de rock en France, le travail photographique de François n'était pas super bien mis en valeur. Donc moi, j'avais gardé une forte attache émotionnelle à toutes ces images. Et puis le fait est qu'un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai contacté pour lui dire « Quand est-ce qu'on réédite Scènes de rock en France ?» Et il m'a dit « Mais attends, mieux !» Puis encore plein d'autres photos et... Et du coup, voilà, on a travaillé d'abord sur ses archives à lui. Et on a fait des nuits blanches presque sur toutes ces boîtes d'archives. Et puis, on a choisi les photos. Et puis voilà, c'est un bébé qui est quand même piloté grandement par François et Christine sur les choix aussi. Et nous, on est contents d'avoir accompagné ça dans le sens, les choix de la pagination, le format, la reliure. C'est un peu comme ça qu'on travaille aussi tous nos projets, que ce soit des livres, des disques.
Ça serait bien que tu développes sur la reliure, parce que c'est une reliure tout à fait particulière.
C'est une reliure à la Suisse. Alors ne nous écrivez pas parce que votre reliure n'est pas collée. C'est normal, ça permet d'ouvrir l'ouvrage à plat et de pouvoir profiter des photos panoramiques. Il y en a pas mal quand même dans l'ouvrage, François. Il y en a combien ?
Je ne sais pas compter, mais
je crois que 301, il me semble.
Alors il y a 333 photos, mais on parle des photos pleine page, notamment horizontales.
Il y en a un tiers pratiquement, je crois.
Et donc la reliure à la Suisse permet effectivement d'ouvrir le livre complètement à plat et on n'a pas une partie de l'image qui est cachée par la pliure du livre. Et donc ça déroute les acheteurs et qui nous écrivent en disant le livre est vraiment superbe, mais pas de chance, ma couverture s'est décollée. Mais c'est comme ça que... C'est normal.
J'avoue que moi-même, j'étais surpris en la voyant, parce que c'est la première fois que je voyais une reliure de ce type.
Mais si, dans Pogo, un ouvrage précédent qu'on a sorti, Pogo, la reliure est exactement la même, mais ce n'est pas le même assemblage, c'est une pochette avec des rabats.
Et la couverture n'est pas accrochée.
En plus, elle est volante.
François Poulain, quelle était votre première photographie ?
Alors, j'ai fait ma première photographie en 1987, et c'était pour un concert des Batmen. Batmen, un groupe de Grenoble.
De rock'n'roll plutôt dans ce garage.
Voilà. Et donc, c'était à l'époque, j'utilisais une T-Max 400 ASA que je poussais à 800. Et donc, les résultats étaient un petit peu difficiles à obtenir, à avoir des photos de bonne qualité. Et je me suis tout de suite pris au jeu. Et donc, dans cette association qui s'appelait Capsule Rock, je faisais des photos toutes les semaines. Et par la suite, j'ai rencontré dans cette salle le manager de la Mano Negra qui tenait une autre salle qui s'appelait le Fahrenheit à Issy-les-Moulineaux. Et il a vu un de mes tirages sur le mur. Il a dit « Oh, elle est bien cette photo, tu voudrais pas venir faire des photos dans ma salle ?» Et finalement, je suis aussi parti à Fahrenheit de l'autre côté de Paris. Et pendant 10 ans, j'ai réussi à faire des photos dans ces deux salles.
Et voilà, il est en train de spoiler ma préface.
Et justement, cette prise de vue, quand vous prenez une photographie, comment s'exerce-t-elle, cette prise de vue ? Alors, est-ce qu'il y a de l'émotion aussi à inclure ?
Alors, il y a certainement de l'émotion, parce que j'allais dire que moi, je fais toutes ces photos avec passion, parce que je suis passionné par cette musique, étant moi-même musicien. Faire des photos, pour moi, c'était de me rapprocher le plus près de la scène et d'être un peu avec eux sur scène. Finalement, j'aurais préféré être sur scène que plutôt faire des photos, mais bon, voilà, je faisais des photos, je m'en contentais. Et donc, et puis surtout, ces photos-là, je précise que ce sont des photos non recadrées, c'est-à-dire que je fais le cadrage avant d'appuyer sur le déclencheur. Donc toutes les photos qui sont présentées dans ce livre sont présentées avec le bord noir, avec mon bord noir, et donc ce qui signifie que les photos sont plein négatif et sans recadrage. Et ce recadrage, c'est non négociable.
Ce sont donc des films 24-36 à l'époque.
En argentique, oui.
Vous êtes toujours resté sur ce format d'image?
Alors, il y a quelques photos dans le livre qui sont en 6-6, il y en a même quelques-unes en 6-7, mais uniquement pour des photos de pose en session. Mais en ce qui concerne le live, je suis toujours resté sur le 24-36. De toute façon, à l'époque, tout le monde faisait du live en 24-36, hein. Il n'y avait pas d'autre choix en général.
Il y a la prise de vue et vous-même passiez au tirage?
Tout à fait, je faisais moi-même mes tirages. D'ailleurs, ma première parution que j'ai faite dans Best en 1988 ou 9, c'était le groupe Dealer. Et c'était un tirage photo que j'avais fait moi-même sur mon agrandisseur. Je faisais effectivement mes propres tirages. Et c'est ce que j'ai en école de photo des Gobelins. Il y avait deux sections, une section pub et une section laboratoire. Et moi, j'avais choisi la section laboratoire. Et pendant les 2 ans que faisait la formation, je faisais déjà des tirages photos de groupes de rock. J'étais le seul dans ma section. Et c'était d'ailleurs une des choses les plus importantes pour moi. C'était de me retrouver seul dans mon labo. Je fermais la porte à clé, j'étais dans le noir, je mettais la musique. Et c'était vraiment un moment particulièrement agréable. Moment que je ne connais plus, puisque j'ai arrêté la photo argentique en 2006. Et maintenant, on fait du numérique. Et maintenant, le numérique, c'est vraiment pauvrement beaucoup moins intéressant. On est devant un ordinateur. C'est beaucoup moins intéressant.
Il y a moins de poésie. Oui.
Tu peux éteindre la lumière et puis mettre de la musique aussi, tu sais.
Mais il n'y a pas la magie de l'image qui apparaît.
Voilà. C'est vrai que d'avoir cette magie de cette photo qui se révèle dans cette bassine de révélateur, c'est quand même un moment magique. C'est un moment qui me manque énormément aujourd'hui.
Après, il y a Photoshop, hein, un outil qui permet peut-être de révéler une image avec un tampon et faire disparaître le blanc pour laisser apparaître l'image.
Effectivement, maintenant, avec le numérique, on utilise Photoshop ou autre chose, ou d'autres logiciels de traitement d'image. Donc, mais c'est, pour moi, c'est nettement moins glamour.
C'est certain. Et puis, il y a cette magie, hein, là, alors que le numérique, c'est...
C'est de l'instantané. Maintenant, on fait des photos en numérique, j'allais dire, quand on fait des photos de concert, c'est, pour moi, c'est même pas du tout le même métier. Parce qu'on fait une photo, on regarde tout de suite la telle qu'elle a, on peut tout de suite changer son traitement. Enfin, je veux dire, on change les paramètres, la mesure de l'exposition, la vitesse, la profondeur de champ, alors qu'à l'époque, on déclenchait sur une pellicule argentique et on envoyait sa pellicule à développer et on n'avait pas le résultat avant 3-4 jours et c'était une surprise.
Sur la prise de vue, c'est un peu différent aussi, je pense, parce que aujourd'hui, avec le numérique, beaucoup de photographes shootent avec 10 poses d'un seul coup. Ce qui n'était pas... Enfin, il y avait des appareils qui permettaient de le faire en argentique aussi, mais les moyens, le prix, voilà, faisait qu'on faisait une photo par une photo. Et c'est peut-être plus facile aujourd'hui de sortir une bonne photo parmi 10 qui ont été shootées au moteur.
Oui, en même temps, pourquoi diable s'en plaindre?
Ça permet d'avoir du plus, hein. Oui, oui, oui.
Bah, si au final on est à peu près certain d'avoir des photos qui rendent bien, si tu veux, j'aime bien qu'on magnifie l'art, si tu veux, et la technique, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de proposer aux gens des trucs de bonne qualité.
Tout à fait.
Qui inspirent quand même. De toute façon, soit on considère que la photographie c'est le but, soit on considère que c'est le fait de montrer des choses qui existent qui est le but.
Non, mais quelque part, cette photo numérique, c'est très représentatif de l'époque actuelle. C'est-à-dire, on veut tout et tout de suite et rapidement. Ouais. C'est sûr qu'à l'époque argentique, avant d'appuyer sur le déclencheur, il fallait se poser énormément de questions. Il fallait bien réfléchir, il fallait attendre, il fallait être très, très patient. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on appuie sur le moteur, on fait 10 images secondes et...
On se pose des questions après.
Mais j'ai rencontré l'autre fois un jeune photographe qui... On avait fait des photos sur un concert des Chéris, je me souviens, à Marseille. Et il m'a dit, ouais, j'ai fait 1500 photos ce soir. J'ai fait 1500. Je lui ai dit, mais tu te rends compte le temps que tu vas passer devant
bon
ton
ordinateur.
Le temps que tu vas passer devant ton ordinateur. Il me fait, ah, mais j'adore ça. Et moi, personnellement, si je devais dérucher 1500 photos devant mon ordinateur, je pense que j'irais même pas.
Eh bien, c'est un autre esprit. Là, je pense que le gars, en fait, il va revivre le concert et que ces 1500 photos, ça va le faire comme une bande dessinée du concert.
Mais effectivement,
c'est un autre trip.
Il a tout pris avec 10 images secondes, c'est-à-dire que donc il va choisir à chaque fois sur des tranches de 10 photos. La photo, elle est presque identique 10 fois de suite. Bon, c'est une torture.
Marsu, vous-même, donc, êtes producteur, éditeur photographique. Mm-hmm. Est-ce que vous avez sollicité justement Frampou, hein, alias Frampou,
pour
ses pochettes notamment?
Alors, oui, tu as fait plusieurs pochettes pour. Pour Bondage et pour Crash, il y en a plus qu'une. Et par-dessus marché, il a fait pas mal de photos de presse aussi qui ont été réutilisées parce qu'à une époque, c'était bien beau de faire des tirages à la pièce. Il y a certaines photos de presse pour balancer en quantité qu'on a fait en impression avec en dessous le logo du groupe et l'adresse du label. Et ça, c'était un truc qui était assez efficace, parce que d'un seul coup, tu peux en balancer plusieurs centaines à droite et à gauche, quoi.
Et le crédit du photographe.
Bien entendu.
Christine, vous avez ce regard, donc, pour composer ce livre. Vous en avez peut-être produit d'autres également?
Non, en tout cas avec François, moi c'était le premier. Je n'avais pas participé à l'époque à Scène de Rock en France en tant que graphiste. Je n'étais pas encore graphiste à l'époque. Et du coup, ça chante. Voilà, l'idée aussi, la mise en page est vraiment extrêmement simple, hein, sur ce livre. L'idée était de recréer un peu l'esprit d'une exposition, en fait. C'est-à-dire d'avoir des photos, soit pleine page, soit plusieurs par page, en l'occurrence pas plus de quatre. Mais l'idée était, voilà, juste la photo, du visuel et une légende pour expliquer ce qu'il en est. Donc c'était ça l'esprit.
La question s'adresse aussi bien à toi qu'à François. Explique-nous en fait ce qui peut avoir motivé la juxtaposition de certaines photos. Pourquoi certaines photos sont à tel endroit et pourquoi? Parce que ça, c'est, je sais qu'on en a parlé avant. Donc, pour moi, c'est un peu mystérieux. C'est intéressant quand même à suivre.
Je ne voudrais pas démystifier le truc, effectivement. Alors, des fois, effectivement, elles ont des concordances intéressantes. Mais il faut imaginer que je me suis retrouvé... on avait imprimé les 330 photos sur papier. Et il m'a fallu vider une pièce entière de chez moi. Et j'ai étalé toutes les photos par terre. Et j'avoue que elles sont un peu tombées dans un sens comme elles me sont arrivées. Et une fois que je les ai mis par terre, j'ai fait quelques changements. Mais j'avoue qu'il n'y avait pas vraiment de recherche très, très ordonnée.
Résultat de mécanique du chaos. Parfait.
C'était ça. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses, des groupes qui n'étaient pas forcément en connivence. Mais la photo, elle était en connivence et on pouvait mettre droite-gauche. Mais c'est vrai que ça s'est fait assez facilement.
Mais des fois, c'est à ne rien y comprendre parce que des fois, certains groupes sont tous cantonnés en 2-3 pages et puis d'autres sont étalés sur 5-6 pages à droite à gauche. Donc il n'y a pas vraiment de règles.
Nous allons écouter un deuxième morceau, Nos Passaranes, d'un album qui s'appelle Les Cadavres, Paris sous la pluie.
Qui est un live
et donc
au Bataclan.
Tu veux faire des câbles? Non, si elle fait ça, aujourd'hui.
L'interview du jour sur RDIWA,
la radio du Diwa,
107.5,
101.7,
FM.
François Poulain, ces prises de vue démontrent une chose, c'est cette jeunesse.
Cette jeunesse, c'est une époque insouciante. Et cette
insouciante
et cette énergie.
Insouciante, peut-être pas, hein, à commencer par les berruriers noirs, il y avait quand même une bonne prise de conscience.
Alors, on vient d'entendre quand même un morceau qui est assez radicalement antifasciste et qui est quand même pas mal d'actualité à une époque où nos passanarades s'est transformé en passarades sur votre tronche plutôt.
Mais je disais insouciante au niveau musical, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enjeu, les groupes montaient sur scène et étaient hors des sentiers battus, hors des majors.
Meilleurs que les autres.
Voilà. Donc ils étaient insouciants parce que ces jeunes montaient sur scène et n'avaient pas d'autre envie que d'exprimer leur musique. Et effectivement, c'était une musique qui était injustement blacklistée par la presse mainstream. À l'époque, ces groupes-là ne passaient ni à la radio, ni à la télé, ni dans la presse musicale qui avait pignon sur rue. Et heureusement qu'il y avait les fanzines et les radios libres pour parler de toute cette scène musicale. Et heureusement qu'il y avait des livres comme Scène de rock en France en 1993 qui les a mis en avant. Et 30 ans plus tard, ce livre Indocile pour leur rendre hommage.
Justement,
Marsu fait partie des gens qui ont brassé Ciel et Terre pour pour que ça, cette musique accède au...
Oui, et bah, comme d'autres, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui se fait quand même par une action collective, par un réseau qui s'est établi non seulement à l'échelle du pays, mais même carrément hors des frontières, et par une convergence de points de vue sur le monde. C'est pas que de la musique, c'est une manière d'être, une manière de s'envisager par rapport au monde, une manière d'organiser les choses par rapport justement à une sorte d'establishment de la musique et de la culture qu'on avait devant nous. Mais c'est là où quelque part le type de photo qu'a pu faire Franpou recoupe une énorme partie de cette scène, parce que on parlait des médias qui n'avaient été pratiquement pas là, enfin qui sont arrivés quand tout était déjà fait, mais tout a été fait surtout grâce au concert. C'est avant tout par le faire, et souvent dans des conditions qui étaient quand même ultra précaires par rapport à maintenant, que les groupes ils ont pu se faire connaître et puis commencer à amasser suffisamment de public pour que d'un seul coup, ça explose et que 2 ans plus tard, les médias rapiquent en disant « Oh, on a loupé quelque chose, je crois ». Et donc les photos, ça rend compte de cette... puisque Franpou est arrivé quand même un peu sur le tard par rapport à ce qu'on appelait la vague alternative. En revanche, il est arrivé sur le moment où c'était explosé et où il y avait des groupes qui accédaient enfin à des salles importantes et à une reconnaissance.
Et oui, j'étais beaucoup trop jeune puisque je ne suis né qu'en 1966.
Gamin.
J'avais ce désir pour vous, Marsu, aussi de transmettre aux générations successives cette mémoire de cette jeunesse et aussi de leur vision.
Alors jeunesse, vieillesse, on va commencer à ergoter un peu là-dessus, mais c'est une manière de faire les choses. Cette manière-là, elle n'est pas réservée forcément qu'à des jeunes, même si... comme on dit vulgairement, en chier pas mal, c'est quand même plus facile quand on est jeune, on supporte. On supporte plus facilement l'échec, par exemple. Cette convergence de points de vue, cette manière de faire, elle rejoint des gens de plusieurs générations, des gens de différentes cultures, des gens qui ne sont pas forcément que de la musique punk rock ou assimilée. On a pu retrouver dans un même fonctionnement aussi bien des gens qui travaillaient dans les coopératives, qui étaient dans le domaine du commerce ou de l'industrie, que des gens qui étaient dans le domaine de l'éducation, que des gens qui faisaient de la musique traditionnelle, des gens qui... C'est extrêmement varié. Et ce qui rejoint tous ces gens, c'est juste une manière d'imaginer qu'un monde pourrait fonctionner autrement, en étant basé sur autre chose que l'exploitation des uns des autres et puis la recherche du profit sans cervelle, c'est-à-dire en bousillant tout ce qui est autour de nous. Et ce point de vue-là, en fait, il est encore partagé par des gens, et le fait de transmettre par les bouquins, à mon niveau, par exemple, je disais que mon label était en sommeil, c'est entre autres parce que je ne suis pas complètement convaincu que la musique elle ait le même potentiel que quand j'étais gamin. Y compris sur des groupes qui ont pourtant encore un succès important. Il y a un problème de cohérence. Mais en revanche, le bouquin, c'est encore une manière noble, entre guillemets, de faire passer les choses. Et donc, tant qu'on peut batailler sur la transmission culturelle, sur le fait de partager des choses avec des gens, ça m'intéresse. Mais il faut qu'on arrive à quelque chose. Il faut que derrière, on puisse... faire se rencontrer, faire se croiser les idées, faire s'agglomérer les manières de faire pour que les choses parviennent à changer petit à petit. C'est toujours l'histoire du sablier qui se vide d'un côté et qu'on remplit de l'autre. C'est un peu complexe, mais il ne faut pas lâcher l'affaire, comme on dit.
François Poulain, Christine, vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais dire, pour confirmer, il y avait une volonté, mais on la retrouve encore aujourd'hui. Hein. Quand il y a une volonté de faire les choses, je veux dire, ça donne une énergie et une diffusion de ce que vous faites ou de ce que vous voulez dire, qui est assez conséquente. Ça, n'hésitez, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre, il faut se lancer et faire les choses. Même si elles n'étaient pas parfaites à l'époque, même si elles ne sont pas parfaites aujourd'hui, il y a d'autres canaux de diffusion, effectivement, comme disait Marsu.
C'est le principe de ce qu'on appelle le DIY. Fais-le toi-même.
Exact.
Si les gens ne s'intéressent pas à ce que tu fais, si tu n'as pas de structure de développement ou de promo ou de subvention, etc., tu fais les choses à ton échelle, petit à petit, et si c'est suffisamment fort, ça mettra plus de temps que si tu avais une troupe derrière toi.
Mais ça se fera.
Mais après ça sera plus solide. Et ça, on l'a vu au niveau des groupes, mais on l'a vu aussi au niveau des artistes. Il y a un paquet de gens qu'on connaît qui maintenant, entre guillemets, pignon sur rue, alors après avoir été méprisés pendant super longtemps. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que plus ça arrive tard, et plus il y a un immense respect avec des gens qui sont faits par underground, etc., etc. C'est quand même assez amusant. Et là, c'est ça qui a fait que, par exemple, le public des groupes qu'on a pu citer, il est fidèle, parce que justement, c'est des gens qui se sont emparés des groupes et de leur histoire pour la faire leur. Et donc, du coup, par rapport à ça, c'est pas seulement que de la consommation musicale, c'est une manière de se retrouver d'un point de vue philosophique, et voilà, ce que je disais avant.
Aria, cette archive de la zone mondiale, c'est un désir aussi de laisser une trace culturelle sur ce qui vous a passionné, parce que c'est une passion pour vous.
C'est exactement ça, et c'est exactement ce que vient de décrire Marcio aussi, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a fait des choses qu'on ne savait pas faire, qu'on a appris à les faire sur le tas. Ça va faire plus de 10 ans maintenant que le label existe. Et sur des choses qui nous passionnaient et qu'on pensait qu'il n'y avait personne qui le faisait au moment où on l'a fait. Voilà, donc on s'est emparé de la chose, on a contacté les groupes qu'on aimait, qui étaient pour la plupart plus dans des structures. Et voilà, et on en est là, 12e année je crois, quelque chose comme ça.
Frampou, vous, ce désir de photographier la scène rock s'est arrêté en 2007. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là pour arrêter ?
J'ai arrêté en 2007 la photographie argentique, mais depuis je continue à faire des photos en numérique.
Est-ce qu'il y a toujours cet esprit de scène que vous avez connu dans les années 80 aujourd'hui ?
Quel esprit ?
L'esprit un peu indocile.
Comment dire ?
Vu les salles, déjà, il y a beaucoup de choses qui se sont aseptisées.
Déjà, je voulais dire que à l'époque, dans Scène de Rock en France, c'était avec un S, c'était pour dire qu'il y avait finalement plusieurs styles de musique. Et donc, on retrouve ça aussi dans Indocile, donc on retrouve un mélange des genres. C'est-à-dire, dans Indocile, on ne trouve pas que des musiciens qui font du punk rock basique, mais on trouve aussi du reggae, on trouve aussi de la chanson rock. Par exemple, on peut trouver des gens comme Kent.
Du rap.
On peut trouver des rappeurs, puisqu'on y trouve aussi une photo d'Assassin. On peut aussi trouver, il y a même une photo du percussionniste de Bob Marley de Wailers. Donc finalement, l'étendue musicale est très très large. Donc aujourd'hui, l'esprit dans les salles de concert, moi c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 90, je photographiais beaucoup dans des petites salles. Ces petites salles ont principalement toutes disparu et souvent remplacées en région par des SMAC. Et donc je dirais qu'il y a quand même une uniformisation, notamment au niveau, je parle pour moi en tant que photographe, au niveau de la lumière, on a tendance maintenant à trouver de la lumière à LED qui gigote de partout. C'est-à-dire que l'éclairage se fait avec des projecteurs qui tournent dans tous les sens. On se croirait à la foire du trône.
C'est pas de Noël.
Voilà. À l'époque, les lumières étaient faites pour éclairer le groupe. Et maintenant, la plupart des lumières sont en contre-jour. C'est le public qui est éclairé. À l'époque, je me souviens, dans les salles de concert, quand on faisait tomber quelque chose au sol, il fallait attendre la fin du concert pour le retrouver parce qu'on était dans le noir. Maintenant, si vous faites tomber quelque chose par terre, vous êtes en plein jour, vous retrouvez tout ce que vous voulez.
Mais c'est peut-être parce que les gens, vous avez tombé beaucoup de choses qu'ils ont mis les lumières sur le public.
Donc l'esprit a changé, certes au niveau de la musique, au niveau de la lumière, mais est-ce que l'esprit a changé pour la musique ? Alors il est clair qu'il y a de moins en moins de concerts de rock, je dis du rock au sens large, comme dirait Bob Marley, la punky reggae party. Aujourd'hui, le rock est un petit peu minoritaire dans les salles de concert. Je le vois notamment chez moi, puisque j'habite le sud de la France, du côté d'Avignon. Et donc l'esprit a certainement un petit peu changé, mais il en faut pour tout le monde et il en faut pour toutes les musiques.
Il y a aussi, au moment du tirage, vous utilisiez certainement des caches, des accessoires pour révéler les images.
Alors, j'allais dire, mes principaux accessoires, ce sont mes mains. Et quand on fait des tirages à l'agrandisseur, on est un petit peu prestidigitateur. On avance ses mains sous la lumière et on en rajoute, on en enlève un petit peu à droite, à gauche, en faisant des essais. Et c'est vraiment un travail assez compliqué. Des caches, effectivement, on avait à l'époque des petits fils de fer avec au bout des petits bouts de papier qu'on avait découpés en forme d'étoile et qu'on remuait au-dessus des visages pour enlever un petit peu de lumière, pour laisser apparaître le visage des guitaristes ou des chanteurs. Donc c'est vraiment, finalement, c'est un savoir-faire très manuel, la photographie argentique sous agrandisseur.
Vous étiez un sculpteur de lumière.
Oh, c'est très beau ça, sculpteur de lumière, je prends.
Et donc, il y a ce format aussi de ces images sur le livre. Quelles sont les tailles originales de vos tirages parfois ? Est-ce qu'elles sont de plus grande taille ?
Alors, au niveau des tailles, quand je faisais des photos de presse, je faisais des tirages 13-18. Et en général, quand je mettais des photos dans mon book, je faisais mon tirage préféré, c'était le 30-40. Et d'ailleurs, les 5 expositions itinérantes que j'ai faites ont eu toutes des photos 30-40. C'était vraiment mon tirage de prédilection. Et notamment l'expo Scène de rock en France qui a été faite à la suite du livre Scène de rock en France, du même nom. Donc c'était une expo didactique. On avait une photo 30-40 avec un texte qui faisait la même taille, avec écrit très gros pour que ça soit très didactique et facile à lire. Et justement, maintenant, donc c'est mon format idéal était le 30-40. Et pour Indocile, là, je suis passé dans la démesure parce que j'ai un projet de monter une exposition et de faire des tirages que je vais faire sur des bâches. Et pour ce que je vais prendre un format qui va faire 1,20 m sur 80 cm. Alors là, j'expose la taille du format. Et j'ai expérimenté ce format-là dans une expo qu'on a fait à Genève, lors de la sortie du livre pour le festival de la zone mondiale qui s'est déroulé le 7 et 8 décembre dernier 2024 à Genève. Et donc, on avait fait des tirages en grand format et j'ai tellement apprécié que je vais doubler le format pour avoir ce que j'appelle une expo Indocile grand format. C'est quelque chose, j'allais dire, je vais un petit peu casser les codes de la photographie habituelle, comme on peut la voir dans les galeries d'exposition, parce que non seulement j'abandonne le format d'un tirage papier, je fais ça sur une bâche et en grand format, et je pense que ça aura toute sa place dans les salles de concert, mais il faudra effectivement des salles de concert avec une grande hauteur sous plafond pour pouvoir arriver à accrocher ces bâches sur le mur.
Christine, vous donc êtes la partie graphique de ce livre Indocile. Qu'est-ce qui a déterminé le choix de ces images ? J'imagine que est-ce que c'est Franck Pou ou vous, Christine, qui avez opéré le choix des images parmi des milliers, j'imagine ?
Oui, alors les images, elles ont été la première sélection effectivement a été faite par François. Après, avec Paria, parce qu'il en avait choisi beaucoup plus, donc on a participé à cette deuxième sélection. Voilà, nous, ce qu'on cherchait, enfin ce que François cherchait, il avait d'abord sur la qualité photographique, mais après on s'est vite aperçu que sur certaines photos, il pouvait y avoir des choses qui, lui, le gênaient photographiquement parce que ce n'était pas d'un esthétique énorme, mais il y avait une telle énergie dans la photo, dans ce qu'elle représente, ou dans ce qu'elle représentait, ou dans le mouvement même de l'image. Et qui rendait la photo indispensable dans le livre. Donc c'est vrai qu'il y a des photos qui sont pas, excuse-moi François, qui ne sont pas peut-être toujours extrêmement polissées dans les règles de l'art, mais ça dégage quelque chose qu'il fallait absolument transmettre. C'est ça aussi le but de ces images, quoi. Et le fait qu'il n'y ait pas de texte renforce peut-être un peu aussi tout ça. Après, on parlait tout à l'heure de tirage photo. Les photos qui ont servi à faire le livre ne sont pas passées par la case agrandissement papier argentique. François a scanné tous ses négatifs, enfin pas tous ses négatifs, une grande part de ses négatifs, et on est parti de ça. Donc c'est vrai qu'on a eu un travail assez long, somme toute, de réglage d'images. Donc François réglait les images, après on les retouchait éventuellement parce que certains négatifs étaient abîmés avec des rayures, des choses comme ça qu'il a fallu gérer. Elles sont toutes imprimées, ça aussi c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup avec Paria. Elles sont imprimées, le livre est imprimé en quadrichromie. Alors ça peut paraître étrange quand il s'agit de photos de prises en noir et blanc, mais ça nous donnait techniquement une chaleur au noir, un velouté qui était indispensable pour nous pour retrouver un peu cette chaleur qu'il y a aussi dans un vrai tirage, comme je disais tout à l'heure, sur une exposition. Et ça nous semblait important. Donc c'est vrai aussi que dans le réglage de l'image, c'était un petit peu coton pour pouvoir avoir, et ce qui a été un peu la pression, pour avoir quelque chose de vraiment beau et chaleureux au bout du compte.
Paria, on arrive à la fin de l'émission. Pour se procurer ce livre, il y a divers modes, lesquels ?
Eh ben, pour encore quelques jours, il est en exclusivité sur le site des archives de la zone mondiale. Et dès début avril, dans toutes les bonnes librairies...
Donne le nom du site.
Archive avec un s.zonemondiale.fr. Et puis voilà, il va être dès début avril, il va être dans toutes les bonnes librairies et la plupart des librairies de France et de Navarre.
Et il pourra être commandé surtout.
Et dans quelques jours aussi, dans une librairie au Québec, ça y est, on a traversé l'océan.
Pour une petite dernière question rapide, qu'en est-il de cette indocilité sur la scène aujourd'hui ? Est-ce que ça a perdu ou alors vous avez peut-être une amertume ?
François disait tout à l'heure que pour lui, les concerts rock étaient en réduction. Moi, je pense qu'ils sont quand même pas mal déportés. C'est-à-dire qu'à une époque, ils étaient concentrés sur certaines grandes villes qui tenait le gros de la scène, donc Bordeaux, Paris, Toulouse,
Lyon,
un petit peu, Rennes, toi, par exemple. Mm-hmm. Et maintenant, en fait, de plus en plus, c'est dans les campagnes qu'on va trouver les gens qui bataillent. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que partout où je me déplace, régulièrement, je vois des endroits mais complètement paumés. D'ailleurs, comme le petit paumé à Chaumusset, par exemple, dans le sud de la Touraine où je vis actuellement. Où des gens, au-dessus de la cinquantaine, quand même, organisent des concerts, mais avec des jeunes. C'est ça qui est assez marrant. Et dans des endroits complètement paumés. Maintenant, en fait, il y a une diffusion qui s'est effectuée et qui fait que le punk rural, en fait, existe pour de bon maintenant.
Oui, parce que les gens des villes ont bougé, mais ils ont gardé cette approche DIY de savoir faire des choses. Et du coup, ils le répercutent dans leur nouveau lieu de vie.
Elle est aussi peut-être féminine, cette indocilité. Hein. Moi, je reviens dessus un peu, hein, comme ça on aura bouclé la boucle. Mais non, Paria, Funkuri, moi, qu'on a pu voir, je les trouve bien indociles.
C'est peut-être le futur de la scène.
Exact.
L'émission se termine et donc Paria, Marsu, François Poulain et Christine, je vous remercie tous quatre d'être venus sur RDWAP.
N'importe quel père coqué, 2 kilos sous chaque pied, des barres de fer forgées en extension au poignet, poids américain et jambières en titane.